musique est un cri qui vient de l'intérieur.
I still have a dream.
Je rêvais d'un autre monde.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
On n'a pas que de l'amour. Ça, non.
Tout homme, et à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi.
Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre.
And I'm feeling good.
Bonjour à toutes et à tous, Séverine au micro, je suis ravie de vous retrouver sur RQC. Il n'y a pas péril en la demi-heure, une demi-heure pour aborder avec des invités des sujets de société, des sujets d'actualité. C'est tous les troisièmes vendredis du mois entre 13h et 13h30 sur RQC. Des bruits de pas dans l'escalier, une porte que l'on défonce, des cris, des pleurs, c'est la nuit. Des soldats armés qui cherchent un homme, l'homme n'est pas dans l'appartement. Il n'y a qu'une jeune femme et son fils de 4 ans, tous deux terrorisés. Nous sommes en Cisjordanie. By the Sea débute comme ça, dans le chaos. Ce court-métrage a été réalisé par l'association palestinienne Al-Rouad et sera diffusé au Staquet ce lundi 20 octobre en présence du directeur de ce centre culturel et de formation professionnelle basé à Bethléem. L'occasion pour nous de faire un focus sur cette association et de faire le point sur ce conflit israélo-palestinien dont on peut entrevoir, espérer une issue prochaine ou pas. Conflit qui s'est mué au fil des attaques israéliennes en un véritable génocide avec notre invité Jacques Varas, membre de la plateforme mouchronoise, de l'association des Amis d'Al-Rouad et de l'ABP. Alors parlez-nous d'Al-Rouad que vous connaissez bien, une association fondée dans le camp de réfugiés d'Aïda à Bethléem.
Oui, c'est une association qui s'est mise en tête de faire vivre les jeunes Palestiniens plutôt que les jeunes Palestiniens meurent pour la Palestine. Et donc c'est vraiment un label de non-violence, c'est un label de formation et d'éducation, mais c'est aussi un énorme espoir pour le peuple palestinien d'avoir une jeunesse qui se forme, une jeunesse qui interagit, une jeunesse qui veut s'en sortir, et puis des parents qui veulent que leurs enfants vivent, tout simplement comme tous les parents du monde. Et donc, dans un contexte difficile, dans un contexte de violence, Al-Rouad s'est donné comme horizon cette non-violence et cette éducation particulière sur la mémoire, par la danse, par la culture, pour faire en sorte que les jeunes puissent vivre dans... Nous l'espérons dans un pays qui s'appellera Palestine et qui sera considéré comme un pays comme un autre.
Comment êtes-vous entré en contact avec cette association? Vous me disiez en off tout à l'heure que vous y étiez rendu à diverses reprises.
Oh oui, j'ai connu Al-Rouad certainement il y a à peu près 15-20 ans au cours de missions. J'ai accompagné des missions, j'en ai organisé aussi plusieurs en Palestine. Et Al-Rouad était chaque fois, tout comme d'ailleurs un hôpital de revalidation qui s'appelle la Bethlehem Arab Society for Rehabilitation, du côté de Bethlehem à Beit Jala. Ces deux projets, en fait, étaient pratiquement toujours visités par les gens de la Wallonie-Picarde, puisque Tournai, d'une part, appuyait cet hôpital de revalidation, et Moucron, maintenant, appuie Al-Rouad, ce centre qui est un centre de formation professionnelle et un centre culturel, effectivement très impliqué dans la vie d'un camp de réfugiés au sud de Bethléem.
Donc vous venez de le dire, la ville de Moucron soutiendra cette association en collaboration avec l'association belgo-palestinienne de Moucron, la plateforme moucronoise pour la Palestine et les Amis d'Al-Rouad Belgique. En quoi consiste concrètement ce projet de partenariat?
Alors, je parlais de formation des jeunes et c'est vraiment quelque chose qui est important puisque un nouveau pays doit avoir des cadres, doit avoir des nouveaux cadres. Et donc, tout élément de formation sera important, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine culturel. Et donc, Al-Rouad répond un peu à cette idée de formation de jeunes pour garantir un avenir pour la Palestine. Et donc, au travers le centre de formation professionnelle, notamment, ce sont des métiers audiovisuels. Pour l'anecdote, je voudrais peut-être dire qu'il y a quelques années, B'Tselem, qui est une ONG israélienne, avait eu comme merveilleuse idée de doter des groupes de Palestiniens, de jeunes Palestiniens, de caméras, afin que ces jeunes puissent témoigner de leur vécu. Et je dois dire que ça a beaucoup influencé, notamment les populations européennes, à défaut de leurs dirigeants, malheureusement. Mais la population européenne a été vraiment marquée par ces témoignages, qui étaient en fait des visionnages de caméras dotées par cette ONG israélienne. Et Al-Rouad a saisi la balle au pont et à former des jeunes pour qu'ils deviennent des opérateurs audiovisuels.
C'est ça.
Et ici, maintenant, on va aller plus loin. On va essayer de créer un réel centre audiovisuel et un centre de cinéma. Parce qu'on pense que l'image, le témoignage par l'image est devenu maintenant essentiel comme outil de communication et outil d'expression.
Pour sensibiliser la communauté internationale, montrer un peu une autre image du peuple palestinien et de sa culture, c'est
exactement
fondamental.
Donc ça aura un impact, et le fait qu'on projette la première réalisation d'Al-Rouad,
By
the Sea, le film dont vous évoquez le scénario tout à l'heure, est vraiment un élément important. Il passera également au mois du Doc, ici à Mougron, dans quelques semaines. Et donc, c'est une réalisation importante qui peut nous sensibiliser, d'autant plus que la réalité, évidemment, de la Palestine s'impose à nous. Mais c'est également un outil qui est utilisé en Palestine, puisqu'il y a des inter-échanges qui se font, notamment en audiovisuel, avec d'autres centres de jeunes, avec d'autres centres culturels, depuis Jénine au nord jusqu'à Hébron au sud de la Palestine.
Quel sera le soutien de la ville de Mougron ?
Alors, Mougron va en fait être l'agent transmetteur auprès de la coopération francophone belge, Wallonie-Bruxelles internationale, afin que nous allions chercher des moyens pour mettre en place cet outil de formation, ce centre de cinéma et ce centre d'expression audiovisuelle. Mougron participera aussi avec un fonds propre à ce projet. Et donc, c'est vraiment une adhésion de la ville de Mougron à un partenariat qui, je l'espère, se poursuivra dans le temps.
Vous voulez démontrer qu'à travers ce projet, je cite, je l'ai lu dans le dossier, « la culture est une forme de résistance contre l'occupation israélienne, que refuser à un peuple sa culture, c'est lui enlever son droit à l'existence, le mépriser pardon, et remettre en cause son intégrité. »
Oui, mais je suis persuadé que si on veut effacer un peuple, on doit le mettre hors culture. Aller à l'école, qui est un geste tout à fait quotidien, est difficile en Palestine. Mais la première des résistances palestiniennes, c'est de faire en sorte que l'enfant puisse aller à l'école. Malgré les checkpoints, malgré les difficultés, malgré des nuits qui sont parfois violentes avec des incursions de l'armée israélienne. Et donc la culture joue un rôle essentiel dans le domaine de la résistance palestinienne. Et je pense que c'est une arme non violente, mais vraiment très expressive et très, très insidieuse, je dirais, et qui ne plaît pas du tout, évidemment, à l'occupant. Et c'est pour ça que des centres comme Al-Rouad sont visités régulièrement par l'armée israélienne. Le 3 décembre dernier, on a eu vraiment une incursion très violente au centre de formation professionnelle d'Al-Rouad, où les soldats israéliens ont d'ailleurs pris en otage pratiquement pendant 3 jours le centre pour en faire un centre de détention pour des jeunes qu'ils allaient chercher dans les maisons, dans le camp de réfugiés. Ça a été très violent, ils ont fait beaucoup de dégâts. Mais grâce à la ténacité de notre partenaire, on a une résilience énorme pratiquement et une foi en l'avenir inébranlable que je vis quand je vais en contact avec ces dirigeants ou bien avec ces jeunes.
Quand on parle de ce peuple palestinien, il y a ce mot résilience qui revient souvent. Comment l'expliquez-vous ? Comment expliquer qu'ils se relèvent à chaque fois qu'on les croit à terre, finalement ?
Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils ne se relèvent pas, la Palestine restera lettre morte. Et tous les apports que la Palestine a pu donner dans la région, puisque c'est une civilisation très ancienne, je veux dire, je ne vais pas remonter. Gaza, par exemple, a été la capitale des Philistins, dont même la Bible, puisqu'on a toujours cette histoire de David et Goliath. Mais c'est vrai que Gaza représente, par exemple, une civilisation assez énorme dans cette terre qui faisait le lien entre l'Afrique et l'Europe. Et donc, c'était ça un peu le rôle du Proche-Orient. Et c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant en termes d'avenir pour la future Palestine.
Nous enregistrons cette interview donc ce vendredi 10 octobre, 3 jours après la date anniversaire de l'offensive sanglante menée par le Hamas le 7 octobre 2023 en territoire israélien. Faut-il le rappeler, qui a massacré plus de 1200 Israéliens civils et militaires. Il capturait alors 248 civils détenus depuis en otage dans la bande de Gaza. En réponse à ces attaques, Israël bombarde depuis 2 ans la bande de Gaza avec une intensité et une violence inédites. Plus de 66 000 Palestiniens, dont 83% de civils, y ont perdu la vie, selon les données du ministère de la Santé à Gaza. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un champ de ruines, de désolation. Les Gazaouis meurent de faim, tiraillés par la peur, la haine, la douleur. On dénombre maintenant plus de 300 personnes mortes de malnutrition, dont la moitié sont des enfants. Vous connaissez, vous, Jacques, l'importance des mots. Peut-on parler de génocide ?
Oui, je pense. En tout cas, l'expérience que j'ai notamment eue comme délégué et chef de mission de la Croix-Rouge au Rwanda les années qui ont suivi le génocide me permettent peut-être de dire que l'ensemble des outils du génocide sont présents. Alors, on va qualifier de génocide peut-être dans quelques années sur le plan juridique, mais donc le problème n'est pas là. Mmh. C'est que tous les outils d'un génocide sont présents dans les relations violentes que Israël a avec les Palestiniens, et notamment à Gaza, mais pas uniquement. Il y a un apartheid de fait, il y a un nettoyage ethnique, il y a des éléments qui concourt évidemment à qualifier cela de génocide. Je pense que le plus important, c'est que ce soit... L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre.
C'est ça.
Je me suis rendu 2 fois à Gaza et j'ai ramené des images en 2002. C'était avant la prise du pouvoir du Hamas, puisque le Hamas a pris le pouvoir après 2005. Et c'était déjà le 5e bombardement de Gaza. Et donc l'histoire de ces relations difficiles et violentes entre Israël et la Palestine a commencé bien plus longtemps que le 7 octobre. On a atteint le 7 octobre un seuil intolérable.
Oui, paroxysme,
et les crimes de guerre du Hamas devront être jugés au même titre que les crimes de guerre des Israéliens ou de leurs commanditaires et de leurs dirigeants. Mais l'histoire de ces relations, c'est le non-espoir d'une terre pour la Palestine. Je me souviens toujours de ce... Je n'étais pas né à l'époque, mais le partage qu'il y a eu en 47-48 de cette terre en deux, ça a été, au niveau des Nations Unies, uniquement des pays colonialistes, parce qu'à l'époque, les Nations Unies n'avaient pas ni les Africains, ni l'Amérique du Sud. Mmh. C'était pratiquement des puissances coloniales.
La Grande-Bretagne.
Et principalement la Grande-Bretagne, qui est devenue mandataire d'ailleurs par après, ou qui était mandataire avant, pardon. Mmh. Mais c'était déjà pratiquement la perpétuation d'une colonisation. Et tout le modèle israélien par rapport à la Palestine, ce n'est que ce modèle colonial qui se poursuit. Même dans le plan de paix de Trump maintenant, c'est quoi ? En admettant même qu'on puisse aller plus loin que cette première étape de libération des otages, que j'appelle de mes voeux évidemment,
et que
ça puisse à un moment donné faire cesser les bombardements, la préoccupation, c'est que on installe un système colonial pour la Palestine, en pensant que c'est naturel de faire comme cela. C'est pour ça que je pense que le combat principal qu'on doit avoir en tête, c'est l'autodétermination du peuple palestinien dans un pays qui leur est propre, qu'il dirige, et qu'il n'est pas sous influence de quelconque intérêt, ni économique, ni colonialiste.
Vous l'avez abordé, le 29 septembre, Trump proposait un plan de paix en 20 points qui demande entre autres la libération des otages israéliens, la capitulation du Hamas ainsi que son désarmement, l'administration de la bande de Gaza par un comité de la paix présidé par Donald Trump en personne qui cherche le prix Nobel à tout prix et dirigé par un revenant, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Vous avez compris un peu ce plan en 20 points.
Oui, et qui en plus est par rapport au passé et justement au mandat britannique qui a échoué pratiquement au niveau de la Palestine. C'est vraiment incroyable qu'on puisse tout d'un coup faire renaître M. Blair, alors que Blair était pratiquement un opposant à toute possibilité de paix, et il l'a prouvé au demeurant dans beaucoup de dossiers qu'il a eu à gérer. Et donc c'est vraiment incroyable qu'on pense à la puissance anglaise, que pour un moment donné, quoi, repartir à zéro, refaire l'histoire, mais selon Trump, et pas selon les Palestiniens, c'est évidemment une question. Je ne crois pas du tout que ce plan de paix va pouvoir se poursuivre dans de bonnes conditions, pour un élément simple, c'est que le gouvernement Israël n'en veut pas. Il est sans doute un peu contraint pour l'instant, mais il ne veut pas d'un État palestinien. À la fois, le Premier ministre le dit, le répète, il est dans un gouvernement d'extrême droite qui est encore plus absolutiste que lui. Et donc, voilà, c'est pour ça que ce plan de paix est voué pratiquement, pour moi, à l'échec. Il n'y aura pas de deuxième phase, ni de troisième phase de ce plan qui en comporte une vingtaine, 20 étapes sont plus ou moins prévues dans ce plan de paix.
C'était ma prochaine question, en fait. Ce jeudi 9 octobre, Israël et le Hamas seraient parvenus à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza, mais on parle de bombardements encore actuellement sur la bande de Gaza, sur une partie en tout cas, et une libération des otages israéliens et de près de 2000 prisonniers palestiniens. Il s'agit donc de cette première étape, une étape majeure visant à mettre fin à 2 ans de guerre destructrice dans le territoire palestinien. Vous avez déjà partiellement répondu, mais y voyez-vous un début d'espoir que les armes se taisent ?
Oui, il faut saluer ce qui est positif, notamment la libération des otages et notamment, vraisemblablement, une diminution d'une pression et des bombardements. Qu'arrivera-t-il avec le blocus au niveau de Gaza ? Qu'arrivera-t-il avec la Cisjordanie ? Est-ce qu'on va poursuivre la colonisation ? Bien sûr. Est-ce qu'on va poursuivre des annexions ? Bien sûr. Et donc, ce plan de paix n'est pas un plan de paix. C'est un plan qui a une première étape qui peut être intéressante, notamment pour les otages et pour avoir un peu de sécurisation pour les populations de Gaza. Mais appeler ça un plan de paix, c'est vraiment tout à fait usurpé. En tout cas, le terme même de paix et de volonté d'avoir un avenir, notamment pour les Palestiniens, mais aussi pour les Israéliens, parce que je pense aussi que Israël, par ses dirigeants, s'enferme dans une voie sans issue pour elle-même aussi.
Et ce double discours entretenu depuis longtemps par Netanyahou, une volonté de prolonger la guerre pour servir ses intérêts politiques, parce qu'il est en bout de course, il faut bien l'avouer.
Ah, je pense que si la guerre devait se terminer, c'est vrai que ça est la fin du règne de Netanyahou. Il est embarqué dans des histoires juridiques et judiciaires, et donc il doit son salut aussi à cette espèce d'unité nationale qui existe en Israël lorsque Israël se sent menacé. Et donc il est protégé pour l'instant par la guerre. Et je pense que c'est un des aliments qui fait qu'il continue.
À l'annonce de cet accord, le jeudi 8 octobre, une vague de joie a déferlé sur Al-Mawazi, secteur du centre de la bande de Gaza, où s'entassent des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés par les frappes israéliennes, donc selon l'AFP. Une joie mêlée toutefois à de l'appréhension, j'imagine. Ont-ils raison de rester méfiants quant à une issue heureuse de cette guerre ?
Oui, moi je pense qu'ils ont raison d'espérer et d'être méfiants. Tant mieux si c'est porteur d'espoir, mais il faudra évidemment réaliser cela. Et cela, c'est beaucoup moins certain et plus délicat et plus difficile à réaliser. Je pense que la joie des Gazaouis, c'est pas uniquement une joie par rapport à leur souffrance. C'est aussi une joie par rapport à une libération. Beaucoup de réfugiés palestiniens qui sont dans nos centres, aussi bien à Moukron qu'à Tournai, ce sont des gens qui ont fui le Hamas. Il faut tenir compte que cette opposition et cette joie, c'est aussi une opposition au Hamas, je le pense. Et c'est pour ça qu'il faut laisser faire le processus démocratique palestinien se réaliser. Ce n'est pas en imposant des règles de l'extérieur qu'on va à un moment donné amener un pays à se développer. C'est par l'autodétermination de ses dirigeants et de ce pays.
On parle d'un dirigeant justement palestinien qui avait été emprisonné par Israël et considéré comme terroriste.
Barzouti.
Oui. Est-ce que lui pourrait être la solution de...
En tout cas, par rapport à l'avenir de l'autorité palestinienne qui est à bout de souffle. Et c'est pas uniquement... Alors, je suis assez sévère par rapport à l'autorité palestinienne. Mm-hmm. C'est pas uniquement leur responsabilité, puisque Israël a tout fait pour qu'ils soient faibles et qu'ils soient de connivence le plus possible avec eux. Et ils sont tombés dans ce piège. Et donc, je ne suis pas un très fervent partisan de l'autorité palestinienne actuelle, mmh. mais effectivement, il y a des jeunes cadres. Il y a aussi des plus anciens, comme Barghouti, qui pourraient faire l'affaire et faire cette transition entre, finalement, une époque d'autorité palestinienne et les mouvements comme le Fatah, qui existent encore, qui pourraient, à un moment donné, être les interlocuteurs d'une mmh. paix durable. Oui, le problème, c'est que on a appris qu'il n'était pas échangeable au niveau d'Israël. Et donc, il ne sortira pas de prison.
Alors, lorsqu'on est dans un pays dévasté, comme la Palestine, lorsqu'on vit dans la souffrance, qu'on connaît les restrictions dès le plus jeune âge, lorsqu'on est élevé dans la haine et la vengeance, quel avenir peut-on espérer pour les Gazaouis ? Mais aussi pour les Palestiniens de Cisjordanie, qui est un grand absent de ce plan Trump.
Oui. Moi, ce qui m'a toujours impressionné lorsque j'allais en mission, et j'y suis allé quand même pas mal de fois, c'est finalement le côté pacifique du peuple palestinien. Je veux dire, je me suis toujours plus senti en sécurité avec les Palestiniens que dans un checkpoint avec l'armée israélienne. Et donc, on parlait de résilience tout à l'heure. Je pense que le peuple palestinien est à même de pouvoir vivre sereinement avec son voisin. Ils évoquent d'ailleurs assez régulièrement le passé un peu commun qu'ils ont eu à certaines époques où finalement entre familles juives et familles musulmanes il y avait des relations, ça se passait plutôt bien. Voilà, maintenant on ne refait pas l'histoire, on ne sait pas ce qui se passera, mais il n'y a pas, je ne ressens pas en tout cas de haine du côté palestinien, malgré les souffrances, malgré les bombardements, malgré les occupations violentes, je ne ressens pas vraiment de mouvement de haine. Il y a une colère qui peut s'exprimer parfois par une intifada et de manière assez forte, mais je ne ressens pas ce besoin de haine. C'est pas une civilisation de la haine, finalement. C'est une civilisation qui est plutôt portée pour donner-nous un avenir et on veut vivre en paix et on veut que nos enfants vivent, tout simplement.
La Palestine est reconnue comme État aujourd'hui par plus de 150 pays. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça peut apporter ?
Oui, alors c'est une reconnaissance d'un pays qui lui-même n'est pas reconnu.
Oui.
Symboliquement, c'est évidemment intéressant et que, enfin, des États européens mettent à leur agenda cette possibilité de reconnaissance, c'est vraiment déjà, c'est évidemment beaucoup trop tardif, mais ça reste du symbolique. Reconnaître l'État, ce n'est pas une première étape. Reconnaître l'État, c'est reconnaître l'autodétermination du peuple palestinien à en faire un État. Sur une frontière aussi, il ne faut pas oublier que le projet israélien n'est pas porteur d'une frontière pour Israël. Mmh. Et donc on a derrière la tête cette idée de grand Israël, d'Eretz Israël, qui cette espèce de compromis pour les religieux avec une terre promise, et puis pour les laïcs qui correspond en fait à un territoire qu'ils souhaitent. Non, le problème, je pense, le problème vient plus du comportement d'Israël par rapport à ce territoire que du comportement des Palestiniens. On a l'habitude toujours de parler des Palestiniens et du Hamas. J'aimerais beaucoup qu'on parle beaucoup plus d'Israël et de ce qui se passe en Israël, de leur implication dans le champ de la violence en Cisjordanie et à Gaza. Mais cela, on le fait beaucoup moins, en tout cas au niveau des médias traditionnels.
Une solution à deux États est-elle encore envisageable aujourd'hui, Jacques ?
Moi, je pense que oui. Je reste convaincu parce que toute autre formule ne serait pas acceptable, notamment par Israël. Alors, qui n'accepte pas déjà une formule à deux États, mais imaginez une formule à un État où on aurait une minorité très forte, non juive, pour un État qui, il y a quelques années déjà, se proclamait État de la nation juive. C'est intenable pour Israël. Et donc on n'aura jamais, jamais d'État binational ou une fédération un peu à la belge. Non, je reste persuadé que la seule possibilité, même si ça devient difficile géographiquement, même si c'est une Palestine qui est de plus en plus enclavée et morcelée, et c'est évidemment dans le jeu israélien de faire que ça se passe comme cela, même avec cela, je pense qu'il faudra négocier un État palestinien à côté d'un État israélien, et avoir des confrontations négociées, territoriales, pour qu'on ait quand même une unité possible du côté notamment palestinien.
Quelle est la position de la Belgique
La Belgique s'est beaucoup réfugiée sur l'Europe. La Belgique a dit, nous on est d'accord si l'Europe est d'accord. Ce qui veut dire que comme l'Europe n'est pas d'accord, on postpose indéfiniment sa prise de position. Je dois dire ici qu'on a eu des avancées un peu plus forte au niveau de la Belgique, mais encore une fois, conditionnée. Et donc, ce que moi je reproche le plus à la Belgique, c'est, un, de conditionner sa reconnaissance de l'État palestinien, et même s'il devait conditionner, je le reproche de le conditionner uniquement pour les Palestiniens, et de ne rien envisager pour les Israéliens. Aucune sanction, même si sur le plan du papier, même sur le plan des mots, on commence à avoir des mots, mais il n'y a pas très longtemps, on commence tout doucement à parler de sanctions, d'accords de négociations qui pourraient être postposées, enfin bon, mais on n'en est encore qu'aux mots. Donc j'attends de voir. Tout le monde se félicite maintenant pour ce plan de paix de Trump. Je pense que beaucoup vont déchanter à un moment donné, parce qu'Israël ne jouera pas le jeu.
Qu'est-ce que vous espérez pour les prochains jours, pour les prochaines semaines, les prochains mois?
Pour les prochaines semaines, c'est qu'il n'y ait plus de bombardements, qu'il y ait une entrée d'aide humanitaire et de nourriture autour de Gaza. Ça, c'est ce qu'il faut espérer. Et qu'on mette en place déjà les prochaines étapes.
Oui, on n'a pas de calendrier clair.
Il n'y a pas de calendrier, et puis ces étapes voilà, les étapes importantes sont toujours reléguées. Ça a été le processus d'Oslo qui a été un espoir réel. Ça s'est passé comme ça. On s'est mis d'accord sur une série de points, mais les points importants, on les a pratiquement laissés dans le carton. Et évidemment, ça n'a pas donné de perspective de paix. Ni pour les uns, ni pour les autres.
Merci d'avoir été notre invité pour Il n'y a pas péril en la demi-heure. Et on rappelle donc le documentaire By the Sea qui sera projeté donc le 20 octobre, le lundi 20 octobre au Staquet à 19h30.
Oui.
Et donc en présence du directeur.
Voilà, ouais. Il y aura un témoignage évidemment par le film, mais il y aura aussi un témoignage par un témoin direct de ce qui se passe, notamment en Cisjordanie et dans l'actualité palestinienne.
Et on reparlera de la Palestine au Centre Marius Staquet le vendredi 7 novembre à 19h avec la diffusion de No Other Land, un film documentaire tourné entre 2019 et 2023 par un collectif d'activistes palestino-israéliens. Le jeudi 13 novembre à 20h, la Palestinian Circus School présentera son spectacle événement Sarab, Mirage en arabe, mêlant art du cirque et théâtre, véritable ode à la résistance culturelle dans un contexte extrême. Voilà, il n'y a pas péril en la demi-heure, c'est terminé. On se donne rendez-vous dans un mois, le vendredi 21 novembre, entre 13h et 13h30 sur RQC. Et sinon, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de RQC et celui du Centre culturel de Moucron. www.centrecultureldemoucron.be ainsi que sur les plateformes d'écoute. À bientôt pour un nouvel épisode. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the
a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling.